Suivez le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.
13h02 sur Radio Territoria. Bonjour à tous, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes toujours en direct du 84e congrès HLM à Montpellier pour une ultime émission réalisée depuis le stand du gouvernement. Dans cette émission, avec l'ANCOLS, établissement public d'État, nous allons dresser le panorama du logement social en 2024. Bonjour Baptiste Prestel.
Bonjour.
Vous êtes directeur des statistiques et études transversales à l'ANCOLS. Alors une première question toute simple pour débuter Baptiste. Est-ce qu'on peut rappeler tout simplement rapidement quelles sont les différentes missions de l'ANCOLS?
Donc bonjour à toutes et à tous. Oui, alors il y a deux grandes missions. Alors il y en a une, comme son nom l'indique, Agence nationale de contrôle du logement social, qui vise à contrôler justement à la fois les bailleurs sociaux dans le respect de la réglementation et l'ex 1% logement, qui est donc aujourd'hui l'APEC, hein, Action Logement. Donc c'est une mission de contrôle. Et comme son nom ne l'indique pas, il y a aussi une mission d'étude, de connaissance du secteur, qui sont donc les deux grandes missions de l'agence: contrôle des bailleurs et d'Action Logement, et puis connaissance du secteur via un certain nombre d'études.
Alors, connaissance du secteur via un certain nombre d'études, c'est dans ce cadre d'ailleurs que vous avez réalisé un document, le premier panorama du logement social, c'était ça l'objet?
Oui, tout à fait. Donc un document qui justement diffère des études classiques avec une synthèse des principaux enseignements, hein, des préconisations. Mais au contraire, l'idée était d'avoir un document qui puisse être entré par différentes portes d'entrée. C'est pour ça que c'est 25 fiches structurées autour de 5 chapitres et d'un schéma général qui explique le fonctionnement général du secteur. Donc en fait, vous avez à la fois l'option d'avoir une vision macro via un schéma qui explique comment fonctionne le secteur, et puis 25 fiches thématiques qui permettent d'approfondir un sujet avec des questions simples pour s'adresser à un public très général.
Ok, alors 25 fiches, donc égale 25 questions, c'est ça.
Exactement.
5 chapitres, oui. On peut parler des grands chapitres.
Oui. Eh bien, vous avez donc d'une part les ménages, donc c'est-à-dire population qui fait de la demande, qui habite dans le parc social, les locataires. Vous en avez un second qui sont justement le parc social, le bâti en tant que tel. Un troisième sur les loyers et les aides au logement qui sont données aux locataires. Un quatrième qui est donc les bailleurs sociaux, puisque c'est eux qui finalement logent ces locataires. Et un dernier qui est centré donc sur la participation à l'effort de construction, hein, l'ex 1% logement, qui est à la fois Action Logement, mais aussi la SNCF, le petit collecteur de la SNCF à ne pas oublier.
Vous parliez de questions simples, on a une idée comme ça d'une question basique posée.
Qui sont les locataires du parc social, quel est le loyer moyen,
Question simple pour aller direct à l'essentiel.
Oui.
C'était quoi les principales, finalement, difficultés rencontrées dans la collecte et la mise en forme de ces données présentées dans ce premier panorama?
Alors, la difficulté, effectivement, c'est qu'on fait travailler des bases de données qui n'ont pas forcément vocation à travailler ensemble. Donc, il y a eu un travail un peu d'harmonisation pour s'assurer que, de fixer une date, par exemple, limite, on ne prend pas la dernière date, on prend une date 2022, parce qu'on savait que toutes les bases de données pouvaient nous donner de l'information jusqu'en 2022. Et puis, après, il y a un certain nombre de travaux qu'on a fait en interne afin de réconcilier effectivement certaines bases qui, comme je le disais au début, ne veulent pas forcément dialoguer entre elles.
Alors, moi, j'ai eu accès au document pour préparer cette émission, et c'est mieux comme ça. Et le document mentionne effectivement une baisse tendancielle des attributions de logements sociaux. Alors, c'est quoi les principales causes de cette baisse? Et au-delà de la baisse de la rotation et de l'accroissement net du parc?
Oui, alors effectivement... Purement mathématiquement, pour avoir un logement attribué, il faut qu'il y ait un logement disponible. Donc effectivement, la baisse s'explique par une baisse de la rotation. Je vous rappelle, la rotation, c'est 80% de l'offre disponible de logement. Et puis, vous avez les autres 20%, c'est les logements mis en service. Or, on sait que ces deux branches-là sont en baisse. D'une part, il y a moins de mise en service. On est aux alentours de 60 000, 63 000 en 2022. Et puis, il y a une baisse de la rotation. Après, la baisse des rotations, on n'a pas d'éléments qui permettent d'expliquer pourquoi réellement il y a une baisse de la rotation. Du moins, on n'a pas d'éléments là à date pour expliquer ce... Donc on explique pourquoi on a moins d'attribution à l'étape d'avant, mais le pourquoi finalement initial, on ne l'a pas.
Ok. Et comment est-ce que vous expliquez l'écart entre les 3 700 000 demandes de logement social actives au moins un jour en 2022, avec le delta des 2,4 millions actives à une date donnée?
Oui, effectivement, c'est un sujet, puisque souvent le secteur parle des 2,4, maintenant même, je crois, 2,6 millions de demandeurs, et l'ANCOS qui parle plutôt de 3,6 millions. La raison est simple, soit vous prenez à une date donnée, Et donc, vous avez un nombre de demandeurs à une date donnée, soit vous regardez sur toute une année. Tout dépend, en fait, c'est, les deux chiffres sont bons, tout dépend de ce que vous voulez voir. Typiquement, nous, pour faire, on fait un tableau de bord des attributions par an. Et donc, si vous voulez regarder le nombre d'attributions et le ramener à la demande, vous devez regarder sur la même période de temps. Donc, on va dire, si on regarde les attributions sur un an, on va regarder les demandes qui ont été actives un an et pas celles qui sont actives à une date donnée.
Quoi. Mmh. Donc, c'est ce qui explique le
C'est ce qui explique l'écart, puisqu'en fait, vous avez, typiquement, si une demande elle est active au 31 janvier, vous avez une attribution le 3 février, ben en juin, elle n'est plus là. Pourtant, en début d'année, elle était bien présente.
Alors, le document, il souligne aussi que 70% des ménages sont théoriquement éligibles au parc social, mais seulement 11% font une demande. Quelles sont finalement les principales barrières à l'accès au logement social pour celles et ceux qui sont normalement éligibles ?
Alors, oui, éligible ne veut pas dire qu'on a forcément envie de faire une demande de logement social.
On est bien d'accord.
Je rappelle, il y a quand même 6 ménages sur 10 en France qui, en fait, sont propriétaires de leur logement. Donc, effectivement, parmi, on sait qu'il y a, par exemple, oui, un certain nombre de ménages propriétaires qui font des demandes, mais en fait, ils sont très minoritaires. Donc, en fait, ce n'est pas parce que vous avez un taux plus bas que l'éligibilité que c'est problématique. Est-ce que les gens qui souhaiteraient accéder au logement social font pas une demande? Et ça, c'est beaucoup plus difficile parce que on n'interroge pas les gens. Souhaiteriez-vous? Et puis, non, j'ai pas fait de demande. Donc, on sait qu'il y a une perte. On sait quand même, malgré tout, que quand vous regardez les catégories les plus populaires, la proportion est beaucoup plus élevée. C'est-à-dire qu'en dessous du PLAI, vous êtes plutôt à 26% de mémoire de ménages qui font une demande de logement social. Donc, il y a bien un effet. Plus vous avez de moyens, moins vous faites de demandes de logement social. Voilà, histoire de répondre.
C'est parfaitement clair en même temps, donc c'est très bien. Quelles sont les principales caractéristiques socio-économiques des ménages qui font justement une demande de logement social ?
Alors, d'un point de vue en termes de ménage, c'est beaucoup de familles une surreprésentation des familles monoparentales et des personnes seules. Ça, c'est la grande information à avoir en tête. Effectivement, comme j'ai jusque auparavant, comme ces ménages plus populaires qui font une demande de logement social, par rapport à la population, effectivement, c'est des demandeurs qui sont avec des ressources plus faibles. Et puis, vous avez quand même à peu près au moins 40% des ménages qui sont en activité. Ce qui est assez important à souligner, c'est-à-dire qu'on a bien une représentation de toute la population, y compris des actifs. On ne flèche pas le parc social à une certaine catégorie de population.
Alors, je sais qu'il s'agit seulement de la première édition, mais est-ce que ces caractéristiques, elles ont évolué aussi au cours des dernières années ?
Alors, en termes de... Un des éléments qu'on sait, c'est qu'effectivement, on a des attributions qui se font de plus en plus à des personnes de plus en plus âgées. La moyenne augmente chaque année du taux d'attribution. C'est le point sur lequel, effectivement, on a travaillé récemment. Donc là-dessus, je suis assez serein pour vous répondre qu'effectivement, les attributeurs sont de plus en plus vieux, qui est une des pistes d'explication de la baisse de la rotation. Les gens vieux bougent moins, mais c'est une piste dont on n'a pas pu quantifier l'importance pour expliquer pourquoi finalement la rotation baisse dans le parc social. Après, sur les autres questions, je vais être plus prudent, parce qu'il faudrait faire en plus en tenant compte de l'inflation, etc., etc., pour ne pas dire oui, ils sont plus pauvres ou plus riches.
C'est difficilement quantifiable. Comment le système d'attribution des logements sociaux fonctionne-t-il en pratique ? Est-ce qu'on peut le rappeler, ça ?
Oui, donc en fait, quand vous faites une demande via aujourd'hui donc le système national d'enregistrement, donc vous avez en fait un certain nombre de ce qu'on appelle des réservataires, c'est-à-dire des personnes morales qui peuvent proposer des candidats pour un logement social. Donc vous avez à la fois l'État, vous avez Action Logement, vous avez les collectivités locales. Principalement. Et donc sur en fait leur contingent, donc leur stock de demandeurs que chacun de ces entités gère, ils vont proposer 3 candidats à une commission qui s'appelle une CALEOL, qui est la commission d'attribution des logements. Et donc ces 3 candidats, parmi eux va être désigné par cette commission et c'est ce demandeur qui va se voir attribuer le logement.
Quelle est la situation énergétique du parc social ?
Alors, le parc social, c'est 6% de passoires thermiques. On fait deux fois mieux que le parc privé. Voilà. En termes de... pour donner un cadre, on fait deux fois mieux que le parc privé. D'un point de vue purement énergétique, 50% est chauffé au gaz, pour donner des ordres de grandeur.
Ouais.
Je pense que c'est deux ordres de grandeur à avoir en tête et effectivement une dynamique de rénovation de l'ordre de 100 000 logements par an, un peu plus de 100 000 d'ailleurs.
Et puisque vous parlez de dynamique, quelles mesures sont mises en œuvre justement pour améliorer la performance énergétique des logements sociaux et atteindre les fameux objectifs de la stratégie nationale bas carbone ?
Alors, effectivement, les stratégies sont la réhabilitation thermique classique. Et je pense que, vu tous les stands qu'il y a et toutes les conférences qui ont été, qui ont abordé ce sujet, je ne vais pas trop en reparler, mais c'est clairement ça. Et puis, bien entendu, la construction neuve, qui, elle, avec la RE 2020, est d'emblée à un bon niveau de performance énergétique. Ça, c'est deux outils. Et j'ai oublié votre seconde question.
Non, l'idée, c'était de savoir quelles étaient les mesures qui étaient mises en œuvre pour améliorer la performance énergétique.
Oui, c'est ça. Clairement. Ah oui, puis le changement aujourd'hui, maintenant, après la rénovation thermique, il y a bien entendu tout ce qui est le changement des vecteurs énergétiques, c'est-à-dire on passe du gaz au réseau de chaleur, on passe éventuellement à la pompe à chaleur, pour justement diminuer la consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre du parc.
Alors, le document, il mentionne aussi une proportion importante de logements sociaux proches du plafond de loyer. Quelles sont les conséquences, finalement, de cette situation sur l'équilibre financier des bailleurs sociaux et ensuite, évidemment, sur l'accès au logement par les ménages?
Oui. Alors, se pose la question du plafond, réellement, parce que si on est proche du plafond, la vraie question, c'est de deux choses l'une. Ou le plafond est trop haut et donc il est mal fait, ou s'il a été bien pensé, être au plafond est en soi pas un problème. Donc la difficulté, elle est là. C'est-à-dire il n'y a pas de travail aujourd'hui. Alors il y a des réflexions, on voit avec la nouvelle politique des loyers, etc., de tenir compte du profil et des ressources des ménages. Mais en fait, on n'a pas aujourd'hui d'éléments qui permettent de dire le fait d'être au plafond est en soi quelque chose de problématique. Voilà. Il y a juste un rapprochement effectivement tendanciel qui a été fait, que de plus en plus les opérations qui sortent, en fait, le loyer plafond et le loyer défini, c'est-à-dire on ne baisse même pas le loyer, on le prend comme le loyer de sortie. Donc effectivement, la logique d'équilibre des opérations tend aujourd'hui à faire que le loyer de sortie sera le loyer plafond. Mais il n'y a pas en soi, s'il y a un problème sur le plafond, ça serait le plafond qu'il faudrait corriger, en fait.
Ouais. Alors, on constate d'un côté moins de 2% d'impayés parmi l'essentiel et l'ensemble des loyers quittancés. Et pourtant, il y a 12% des ménages qui déclarent avoir connu une situation d'impayé au cours de la dernière année. Comment est-ce que là aussi, on explique le delta, cet écart là?
Oui, tout à fait. Effectivement, vous avez d'un côté la comptabilité qui vous dit qu'il y a moins de 2% d'impayés. Et de l'autre, vous interrogez les ménages, on est à 12%. Et en fait, c'est deux réalités qui sont vraies. Enfin, il n'y en a pas une qui ment et l'autre qui... Donc, comment la réconcilier? Tout d'abord, vous avez le fait que si vous êtes en impayé un seul mois, vous êtes considéré comme en impayé. C'est-à-dire qu'il va falloir, vous, en tant que ménage, trouver de l'argent pour payer ce fameux loyer que vous n'avez pas pu payer. Mais pour votre bailleur, finalement, c'est qu'un douzième de toute l'année. C'est qu'un mois sur 12 qui n'a pas été payé. Donc déjà, vous avez déjà divisé par 12 la quantité. Ensuite, vous avez quand même tout un processus de locataires qui, finalement, arrivent à payer leur impayé tôt ou tard. C'est-à-dire, oui, ils ont été en situation d'impayé, mais il va y avoir des systèmes d'échelonnement qui vont permettre de sortir de cette situation. Et puis après, il peut y avoir aussi quelques cas où effectivement les juges vont considérer qu'il faut pardonner l'impayé. Mmh. Ah, et je rappelle aussi, bien entendu, l'APL sous certaines conditions peut continuer à être versée, c'est-à-dire en cas d'impayé si elle est justifiée. Or, l'APL, c'est 30% quand même des loyers quittancés par les bailleurs.
Alors ici même, dans le secteur, que ce soit les bailleurs sociaux, l'USH, beaucoup d'acteurs parlent de la RLS, la réduction de loyer de solidarité. Vous n'évoquez pas le sujet dans votre document?
Alors, on l'évoque, mais autrement. C'est-à-dire, on ne l'a pas évoqué par rapport au loyer, on l'a évoqué par rapport à l'APL. Et effectivement, il y a bien une fiche qui est consacrée à l'APL. Quelles sont les aides, qu'il y a à part, en gros, des loyers qui sont pris en charge par la solidarité nationale. Et justement, c'est le seul graphe où on a été remonté un peu plus loin que 2018. On a été jusqu'en 2017 pour pouvoir mesurer cet impact, puisque vous avez, le graphe le montre, on passe de 9,3 milliards d'euros d'APL en 2017 à 7,4 milliards en euros constants de 2022. Et donc, on a bien cette baisse qui en plus est continue, c'est-à-dire qu'elle a pris en compte et la RLS et la contemporanéisation des APL, qui est une autre mesure, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a eu deux mesures qu'on fait baisser les APL. Et donc, c'est d'une certaine façon par cette porte d'entrée qu'on traite de la RLS, puisque la RLS, je vous rappelle, en fait, visait à baisser les APL.
Quelles sont les principales aides dont bénéficie le secteur HLM? Et puis, comment, surtout, ces aides contribuent-elles au financement des investissements et à la pérennité du parc social?
Alors, pour avoir un ordre de grandeur, l'ensemble des aides dont bénéficie le secteur, c'est un tiers de toutes les aides dont bénéficie le secteur du logement au sens large. C'est un tiers. Et donc vous avez en gros la moitié, c'est des APL, donc c'est-à-dire ça passe par les locataires. Et l'autre moitié, c'est de l'ordre de 7 milliards, qui est, elle, directement bailleur. c'est soit des subventions. Vous avez aussi en premier poste la TVA réduite, hein, qui est en fait une subvention indirecte qui est souvent oubliée dans les plans de financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous dites « je dois trouver 2 millions d'euros pour financer telle opération », en fait, il y a déjà une TVA qui a été réduite et qui est une subvention indirecte. Vous avez enfin des exonérations et des abattements de TFPB, qui sont des impôts locaux, et puis l'exonération d'impôts sur les sociétés qui représentent, là j'ai un doute, je ne veux pas dire de bêtises, mais de l'ordre d'un milliard de mémoire.
Et quel est l'impact, finalement, à long terme de l'endettement du secteur du logement social ? C'est une vraie question.
Oui. Alors justement, nous, on s'est astreint à une logique plutôt rétrospective. Je veux dire, on prend les données, on regarde ce qui est fait et on fait un bilan à date, ou du moins à partir des dernières données disponibles. Okay. Tout ce qui va être de la prospective, on laisse à la Banque des Territoires et donc à l'étude perspective le soin de le faire, en sachant qu'effectivement ils ont les données sur l'endettement de tous les bailleurs de façon plus détaillée que ce que nous pouvons avoir. Voilà, donc il y a une séparation. Nous faisons le rétrospectif, on leur laisse le prospectif.
Eh bien, on ira voir la Banque des Territoires alors. Les principaux enseignements que vous tirez finalement de cette première édition, de ce document ?
En fait, on va laisser les acteurs justement revenir vers nous. L'idée était de faire un document volontairement disponible pour un large panel de public, que ça soit des non-sachants ou des gens qui s'y connaissent, puisqu'on a même eu des acteurs du logement qui ont dit « j'ai découvert tel élément, telle information ». Donc en fait, la main est au public et de nous faire leur retour pour voir comment ils l'ont jugé et ce qu'ils en ont appris ou ce qui était amélioré.
Ok, donc ça a vocation à être pérennisé dans le temps et on aura une deuxième édition 2025, 2026 et ainsi de suite.
Tout à fait.
D'accord,
tout
ce qui permettra d'avoir un recul aussi par rapport à la première édition.
Tout à fait, tout à fait. D'où la volonté de recevoir des différents retours pour que nous améliorions dès l'année prochaine ce panorama.
Eh bien, le message, il est passé. Juste une dernière question. Où est-ce qu'on se le procure, ce panorama ?
Alors, sur le site internet de l'Encol, parce qu'on en avait emmené effectivement sur
le stand,
mais ils
sont
tous disparus.
Victime du succès.
Exactement. Et donc, vous avez sur le site de l'Encol, encols.fr, vous l'avez en première page, et même actuellement dans le carousel, panorama du logement social.
Eh bien, c'est parfait. Merci, Baptiste Prestel, d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous.
Merci également à vous de nous avoir suivis sur Radio Territoria pendant ces 3 jours de congrès. Cette émission, comme l'ensemble d'ailleurs de celles que l'on vous a proposées, sont disponibles également en replay, en podcast sur les différentes plateformes de diffusion. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Web Radio Édition. Salut.
Vivez le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.